Bienvenue sur Just a Click, le podcast français du product management. Ici, on parle de tech, de design et de business. Je suis Thierry Michel et j'accueille chaque semaine des leaders du monde du digital. Ici, vous trouverez des retours d'expérience, des conseils et apprentissages concrets pour progresser en product management. On dit que seul, on va vite, mais sur Just a Click, on prend le temps ensemble d'aller loin. Salut Dounia.
Salut Thierry.
Merci de prendre du temps aujourd'hui donc pour parler d'Orga Produit, de Transfo dans les grands groupes et les ponts entre ce monde-là et le monde notamment des scale-up. Ouais. Parce qu'on a pu en discuter en off et je trouve qu'il y a pas mal de liens à faire entre ces deux mondes pour pouvoir aussi capitaliser sur du retour d'expérience de ces deux mondes. Et donc voilà, ça va être la thématique de notre échange. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter.
Ok, déjà merci pour l'invitation. Donc moi je suis Dounia, je suis coach produit, facilitatrice et formatrice et aussi membre de Fluo. C'est un collectif d'experts produits qui accompagne les entreprises dans la création et l'optimisation de leur orga produit. Donc moi ça fait 20 ans que je travaille dans le product management et la transfo. Et j'ai pas mal évolué dans le conseil et le monde des ESN, ce qui m'a permis de faire à la fois des missions stratégiques, comme de la veille, des études d'opportunité, mais aussi des missions plus opérationnelles, comme occuper des rôles de PO, de PM, de responsable produit. Et puis, avec le temps, je me suis aussi intéressée à tout ce qui est approche design, type design thinking, design sprint, intelligence collective, et en fait j'ai voulu mettre toutes ces expériences et ces expertises au service des équipes et des codir, et c'est pour ça que je suis devenue coach et facilitatrice. Voilà. J'ai aussi travaillé aussi bien dans des grandes structures, des secteurs aussi divers, mais aussi j'ai accompagné des entrepreneurs et aussi des startups early stage.
Ok, très clair. Du coup, pour commencer, si tu devais pour toi un peu définir ce que ça veut dire qu'être une organisation pour toi, qu'est-ce que c'est qu'une organisation en transformation digitale? Ce qu'on peut entendre beaucoup justement dans l'univers des grands groupes et au-delà de qu'est-ce que c'est, les plus gros enjeux en fait qui viennent régulièrement lorsque tu as des organisations comme ça qui se disent on veut porter une transformation digitale pour être plus agile, pour être capable de mieux répondre à un marché qui évolue toujours plus vite. C'est souvent un peu les mots qu'on peut entendre dans différents grands groupes.
Tout à fait. Écoute, moi en fait, ce que j'ai pu constater, je vais parler d'un client qui me vient là tout de suite à l'esprit, qui est Orange, qui est donc un opérateur que tout le monde connaît, qui a fait, on va dire, qui a commencé sa transfo agile à l'échelle en 2019, et ça a impacté quand même des milliers de collaborateurs. Et en fait, moi, j'ai pas mal travaillé au sein de cet opérateur, et j'ai vraiment vu la différence, pour moi, si tu veux, la culture produit par rapport à la culture projet, qui s'illustre déjà par le fait que finalement, on pilotait du développement produit-service en mode projet avant, c'est-à-dire qu'en gros, on avait un périmètre défini, un budget, des délais, et en gros, les instances type Copil, Coproche, c'était des instances qui permettaient finalement de suivre ces projets, s'assurer qu'on allait avoir des livrables en temps et en heure, et finalement, les résultats, on pouvait les constater qu'à posteriori, en gros, est-ce qu'on avait atteint les KPI ou pas.
Copie les coproches, comité de pilotage, comité de projet.
Voilà.
vocabulaire peut-être moins familier pour l'univers startup.
Exactement. Donc là, c'était vraiment le mode projet. Là, dans la culture produit, ce que j'ai pu constater, clairement, aujourd'hui, typiquement chez Orange, il y a vraiment un pilotage de la valeur. Et ça s'illustre à plusieurs niveaux. Déjà, la manière dont les activités de l'entreprise sont organisées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire finalement que la manière dont les activités de l'entreprise sont organisées, elles le sont à travers finalement ce qu'on appelle des chaînes de valeur. Donc, c'est issu du framework SAFe, donc d'agilité à grande échelle, mais qui a été adapté. Mais en gros, ça va être un ensemble de business owners, d'IT, de personnes de la finance ou du juridique, par exemple, qui vont tous travailler ensemble pour délivrer, en fait, de la valeur pour l'entreprise et les utilisateurs. Donc déjà, tu vois, au niveau de l'orga, y a un gros changement puisqu'on est orienté utilisateur et entreprise, valeur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que du coup, les instances, donc tout à l'heure, je parlais de Copil, Coproge, où on suivait les budgets, les délais, les livrables, les risques projets. Là, on va être sur des instances, donc des collectifs, où on va avoir finalement ces collectifs vont s'assurer que la stratégie de l'entreprise et les initiatives qui sont développées par ces chaînes de valeur, elles soient bien alignées. Donc ça, c'est le premier point. Ces initiatives, elles vont être priorisées par la valeur. Et ces initiatives-là, après, elles vont donner finalement des features qui, elles-mêmes, vont être priorisées par la valeur. Donc ça va être après au sein des équipes produits. Donc déjà, voilà, il y a l'organisation, les instances, et puis la manière aussi dont les gens, finalement, travaillent et font du produit. Donc la manière dont les gens travaillent, là, ça va être tout l'aspect collaboratif. En fait, des gens de l'IT, du produit, des data analysts, des UX designers, etc., qui vont travailler main dans la main pour se finalement focaliser sur les besoins utilisateurs et les objectifs de l'entreprise. Donc voilà déjà un gros changement qui s'est opéré.
Hyper clair là-dessus. Du coup, toi, quels ont été, par rapport à tes missions, notamment du coup chez Orange, les plus gros challenges que tu as pu rencontrer lors de ce processus de transformation, en fait? Si là, avec le recul, du coup, maintenant, tu regardes un peu derrière, tu dis, ok, ça, c'est vrai qu'on a fini par réussir à le surmonter, mais on a beaucoup appris parce que ça c'était compliqué, versus aussi d'autres apprentissages assez marquants qui te restent encore aujourd'hui, de choses qui ont pu bien fonctionner, que tu as pu voir bien fonctionner, et du coup que tu essaies de répliquer aujourd'hui. Est-ce que tu as du retour d'expérience à partager là-dessus?
Oui. Alors sur les choses, on peut commencer sur des choses comme tu disais de challenge ou de choses un petit peu plus compliquées. Ça va être le fait de faire comprendre aux équipes la valeur ajoutée, je dis bien ajoutée, de travailler de manière collaborative, et ça dès le début. Donc je parle vraiment du niveau initiative. Donc le niveau initiative, c'est pour donner un exemple, par rapport à une feature, c'est je vais refondre un site parce que je pense que ça va permettre d'accroître le CA. Voilà. Donc là, tu vois, on a un niveau gros sujet, quoi. Les équipes, en fait, même si elles perçoivent la valeur de travailler ensemble, elles se disent dès le début que finalement, travailler de manière collaborative, ça va être ça va leur demander beaucoup de bandes passantes. Et donc, la grande difficulté, c'est de réussir à faire travailler les gens ensemble pour leur faire comprendre que finalement, si dès le début, on se met autour de la table, on va pouvoir s'aligner tout le long, finalement, de cette réflexion des initiatives. Et donc, quand on s'aligne le plus tôt possible, ça dissipe tous les doutes, les problèmes de compréhension. Ça permet également d'identifier plutôt des dépendances éventuelles, voire les impacts, quand je dis les impacts IT ou les impacts humains. Et en plus, ça crée un peu un sentiment finalement d'équipe et tu vois, plus d'engagement. Et ça, c'est vrai que c'est difficile de le faire comprendre tout de suite. Parce que les équipes, en fait, elles sont un peu prises par leur quotidien, le run, et leur dire, ok, on va devoir peut-être dégager X heures par semaine ou toutes les X semaines, c'est quand même du temps qu'on leur demande. Et ça, c'est une difficulté, nous, en tant que coach, que j'ai eu et que mes pairs ont eu. Réussir à mobiliser les gens, même s'il y a de la valeur. Donc pour un petit peu les petits tips pour réussir à trouver ce temps-là, ce qu'on faisait, c'était beaucoup de Rex. Faire venir, par exemple, des gens qu'on a accompagnés. Je pense à des Rex que j'ai pu faire. Tu vois, j'ai mis en place des design sprints pour, par exemple, refondre des parcours utilisateurs en l'espace de finalement de quelques ateliers ou redesigner un site internet en mode design sprint, hein, donc en l'espace de quelques ateliers, produire vraiment, enfin faire en sorte que l'équipe produise des macro zoning, on va dire. Bah ça, quand tu fais venir les gens qui vont parler eux-mêmes de leur expérience en tant qu'équipe qui est passée par là, tout de suite, ça a plus de valeur que toi en tant que coach qui va, entre guillemets, expliquer aux gens finalement que c'est super la culture produit. Voilà, ça fonctionne vraiment bien.
Ça, là-dessus, juste pour rebondir, ouais. C'est vrai que j'ai en tête un épisode avec Bastien qui bosse en tant que coach agile. À l'époque, c'était chez Radio France quand on avait fait l'enregistrement. Il me disait que lui, ce qu'il aimait faire aussi, dans cette logique de demander aux équipes de partager du retour d'expérience, c'était de faire venir aussi des anciennes équipes avec lesquelles il a pu travailler et qui avaient des choses à partager, du coup, et vraiment les faire rencontrer ces anciennes équipes dans d'autres boîtes avec les nouvelles équipes dans lesquelles qu'il accompagnait aujourd'hui pour justement qui est ce partage aussi d'informations informelles et qui assoit beaucoup plus la légitimité de l'approche et qui permet aux gens ensuite effectivement de se convaincre même plutôt que d'avoir un peu le coach sachant qui vient expliquer les choses. Ouais.
Complètement. Voilà, il y a ça. Aussi, par rapport peut-être à d'autres...
À des points après, tu vois que ça peut être aussi des points qui ont bien fonctionné, justement, des choses, tu te dis aujourd'hui, on ne s'y attendait pas peut-être, mais ça, au final, ça s'est vraiment bien passé et ça continue à bien fonctionner. Sur toujours des retours d'expérience que tu as pu avoir, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te viennent en tête aujourd'hui, tu essaies de répliquer auprès des clients que tu accompagnes?
Alors oui, peut-être il faut redonner un peu de contexte, tu vois. Donc je parlais tout à l'heure de notamment d'Orange, donc qui avait mis en place cette transfo avec cette constitution de chaîne de valeur, et en fait il y a donc ces instances issues du framework SAFE qui sont les LPM, donc ces instances qui priorisent les initiatives, qui s'assurent qu'il y ait bien un alignement avec la strat. En fait, au sein de ces instances, finalement, on va demander aux équipes de travailler sur des initiatives. Et nous, en tant que coach, en fait, on va aider les équipes finalement à faire maturer les initiatives. Donc faire maturer les initiatives, ça veut dire explorer la valeur à tous les niveaux, s'assurer finalement que les équipes se posent les bonnes questions à chaque fois. Donc on creuse le pourquoi. On vient un peu titiller à chaque fois. Ok, tu veux faire cette initiative. Ok, pourquoi tu veux la faire? Finalement, elle contribue à quelle ambition de la chaîne de valeur? Elle contribue à quel OKR? Ok, admettons, elle permet, la personne va te dire que ça permet d'adresser le point du chiffre d'affaires. C'est bien, mais côté client, est-ce qu'on résout des problèmes? Si oui, lesquels? Est-ce qu'on a des billes, des inputs concrets? Et donc, en fait, ça, toute cette partie qui est finalement un peu de challenger le pourquoi, nous, en tant que coach, c'est le job qu'on avait. Et ça fonctionnait bien, c'est-à-dire que le fait... dès le début, d'aider donc des équipes pluridisciplinaires, parce que comme je le disais, on travaille avec des équipes, on va avoir aussi bien des PO, des PM, des product designers, des gens de l'IT, et ça peut être aussi bien à un niveau C-level qu'à un niveau équipe, PO, PM. Le fait, en fait, d'accompagner ces équipes, de les aider à clarifier le pourquoi dès le début, ça, c'est pour moi, c'est un élément clé, parce que finalement, comme je le disais tout à l'heure, tu alignes dès le début. Et ça avait de la valeur, et souvent dans les retours, parce que du coup, on faisait pas mal de sondages post-accompagnement d'équipe, ce qui revenait, c'était ça. C'est finalement, dès le début, nous aider à structurer la réflexion, à se poser les bonnes questions, ça nous a permis de nous aligner. Et donc l'alignement, c'est quoi concrètement? C'est un gain de temps. C'est un gain de temps dans la prise de décision. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, t'évites finalement des conversations que t'auras peut-être X semaines ou X mois après, parce que finalement, tu te rends compte que les objectifs du projet, ils sont pas hyper clairs. Là, le fait de creuser le pourquoi dès le début, t'as craqué tous ces points.
Et du coup, quand il y a cette recherche vraiment du pourquoi, Est-ce que tu as eu ces retours où en fait derrière tu as aussi les équipes qui vont le challenger ce pourquoi? C'est-à-dire que tu vas avoir la partie stratégique décisionnaire qui va dire ben, on le fait parce que ça. Et quand ça arrive aux équipes qui sont plus dans l'opérationnel, bien qu'elles comprennent le pourquoi, elles se disent ça reste pas pertinent par rapport à la réalité de ce que nous on voit sur le métier. Est-ce que c'est des cas que tu as pu expérimenter? Et si oui, comment tu les as approcher quoi.
Ouais. Alors hyper intéressant parce qu'effectivement là ce que je te décris, on va dire c'est une vision top down, c'est-à-dire tu as donc dans on va dire toujours dans ce framework à nouveau hein, qui a été adapté, tu as effectivement une strate, en découle des initiatives. Nous en tant que coach, on aide à bien clarifier le pourquoi et puis après voilà la valeur, voilà bref, ça passe dans cette instance qui finalement après va prioriser les initiatives et ça donne des macro-features que les équipes opérationnelles vont affiner pour faire bah voilà, un backlog de features. Mais ce qui est hyper intéressant donc dans cette expérience au sein d'Orange, et pour moi ça c'est aussi une des réussites par rapport à ta question de tout à l'heure, c'est tout à fait ça, c'est qu'il n'y a pas que cette exploration de la valeur en top-down, mais aussi en bottom-up, c'est-à-dire que les équipes opérationnelles, certes, quand ces sujets retombent dans les équipes, elles vont affiner, elles vont prioriser, et en fonction des éléments qu'elles ont, elles sont en mesure de dire oui, ça c'est pertinent, et on, voilà, on priorise ça, je sais pas, pour tel sprint, mais aussi, en fait, elles-mêmes, elles ne vont pas juste faire du delivery de ce qui a été décidé au-dessus, mais elles ont la possibilité de prendre elles-mêmes des initiatives et d'explorer la valeur à leur niveau. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'équipe opérationnelle, au-delà donc de mettre en place ce qui a été fixé au niveau initiative, elles vont soit sur la base de retours clients, donc les retours clients, c'est par exemple des sondages NPS, tu vois, ce genre de choses, des avis utilisateurs, des études qui auraient été faites par tu vois, des études marketing, des interviews utilisateurs, tout simplement la data. Ou un élément que, enfin je parle, c'est un sujet sur lequel les concurrents auraient travaillé, ou bien un KPI qui est un peu dans le rouge. Mais en fait, sur cette base-là, ça va être l'élément déclencheur pour elle-même se dire on va faire du discovery. On va prendre le temps de réfléchir finalement. Et donc, elles ont un temps dédié, et c'est en ce sens que c'est hyper intéressant. Donc voilà, dans le framework SAFE, en fait, c'est à des PI, donc des instances, agiles. Et là, en fait, ces équipes-là, elles ont, sur ce temps-là, un temps alloué pour faire du discovery. Et elles ont cette capacité, du coup, elles-mêmes d'explorer des problèmes utilisateurs et de proposer des solutions. Donc, ce n'est pas que du top-down, puisque ces équipes, elles peuvent, comme on disait tout à l'heure, challenger, mais aussi être à l'origine elles-mêmes de propositions de valeur.
Très, très clair. Et du coup, tu as parlé à plusieurs reprises donc, de SAFE. Moi, c'est vrai que maintenant, j'essaie de faire des épisodes où j'essaie de déconnecter des frameworks. Pour autant, ouais, comme tu le dis, faut les adapter. Donc là, tu parlais à chaque fois de framework adapté. Tu l'as répété à plusieurs reprises. Je suis curieux quand même de connaître ton approche, ta vision là-dessus, notamment dans le contexte grand groupe. Parce que c'est vrai que quand on est une toute petite boîte, pour moi, c'est une erreur de en fait, s'enfermer sur un framework parce que la valeur d'une petite structure, c'est justement d'être capable de ne pas avoir à tout structurer puisqu'on est tellement petit qu'on peut tous avancer très très vite et itérer très vite. En revanche, quand on commence à atteindre un volume de salariés, de personnes qui travaillent, qui se comptent en plusieurs milliers, là, il faut en général mettre un cadre, même si ce cadre doit être ensuite adapté. Et donc, je suis curieux de connaître, toi, ta vision, quelle est un peu ta vision vis-à-vis des différents frameworks qui peuvent être utilisés dans le monde plus corporate, justement, en tant que coach, et ce que tu as pu voir qui fonctionnait versus les choses qu'il faut éviter de répliquer comme erreurs qui peuvent être courantes dans ce genre de mise en place.
Oui, alors voilà, moi tout à l'heure, c'est pour ça que je parlais d'adaptation. J'étais obligée de donner le nom, parce que le wording que j'ai utilisé, voilà, il vient de ce framework. C'est pas moi qui l'ai inventé, et il a été mis en place. Donc tu vois, les PI, ce genre de choses, ou ces instances qu'on appelle LPM, ou ces notions de chaîne de valeur, donc fallait bien que je rende à César. Donc voilà. Mais effectivement, elles ont été adaptées.
Juste pour qu'on détaille juste ces deux acronymes. Donc l'API, c'est Product Increment, si je ne dis pas de bêtises, qui se retrouve, je crois, c'est tous les 4 mois ou tous les trimestres.
Oui, à peu près, tous les trimestres.
Pour faire des points sur l'avancée, justement, des incréments.
Mais tu vois, les équipes qui vont pouvoir aussi... C'est là que tu vas pouvoir partager ce que tu comptes faire sur le trimestre, voir les dépendances avec les autres équipes.
L'autre dont tu parlais, le
LPM, c'est-à-dire Lean Portfolio Management. Okay. Et en fait, c'est ces fameuses instances que je décrivais au début, sans donner nom, qui étaient de dire, voilà, quand tu me demandais la culture produit dans un grand groupe, c'est des instances qui vont en fait s'assurer que les initiatives, donc le niveau initiative, donc vraiment le niveau juste en dessous de la strate de l'entreprise, c'est bien aligné avec la stratégie et qu'on priorise bien par la valeur. Et donc voilà, moi j'ai accompagné ce genre de collectif, donc à ce niveau-là, surtout. Et donc oui, pour répondre à ta question sur les frameworks, voilà, moi je suis pas du tout, justement, j'ai pas une approche dogmatique des choses. Je pense que, bien évidemment, un groupe de milliers de personnes qui veut se transformer à grande échelle, forcément, il va ajouter, il est obligé de structurer son activité et il va s'appuyer sur des frameworks. Donc là, en l'occurrence, il y a beaucoup d'entreprises qui vont s'appuyer sur Safe et ça va être décrié. Hein, si tu entends Marty Kagan parler de Safe, il te dira d'ailleurs son accroche, c'est les grands groupes comme Google ou autres ne font pas du Safe, tu vois. Après, voilà, moi, j'ai pas envie d'avoir une approche dogmatique. Moi, je veux pas rentrer dans le sujet du framework, c'est plutôt... moi, mon expérience au sein d'un grand groupe qui a mis en place et qui a adapté ce framework, les choses que moi j'ai trouvées intéressantes. Et donc les choses intéressantes, typiquement, c'était ça. C'était le fait que dans ce que, en tout cas, par exemple, Orange essayait de faire au niveau de la transfo, qu'on avait, tu vois, cette exploration de la valeur qui se faisait à tous les niveaux, notamment bottom-up. Le fait que il y ait des instances qui priorisent par la valeur et qu'on arrête d'être sur ce mode projet. Et d'ailleurs, une adaptation, par exemple, d'Orange, c'est d'avoir fait cohabiter des EPIC, donc les EPIC, c'est un wording agile, avec encore des sujets qui sont traités en mode projet, parce que tu ne peux pas bouger une entreprise comme ça du jour au lendemain. Pour te donner un exemple concret, moi, j'ai accompagné donc, des chaînes de valeur donc sur des sujets qui travaillaient avec des partenaires qui n'étaient pas agiles. Donc forcément, tu ne peux pas du coup demander à ces équipes de travailler 100% en mode agile. Donc tu as une adaptation. Mais moi, voilà, je retiens juste les bonnes choses, c'est-à-dire finalement, j'oublie le wording et tout le jargon, mais moi, ce que je retiens, c'est OK, c'est positif si y a des instances qui font que les personnes, elles peuvent communiquer entre elles et identifier au plus tôt les dépendances. Il y a des instances qui permettent aux gens de prioriser par la valeur et les pousser à avoir une stratégie pour justement dérisquer au plus tôt. Donc en gros, s'appuyer sur toutes les méthodos, par exemple, in startup. C'est ça, moi, en fait, qui m'intéresse. Pas le framework en soi, quoi.
Très, très clair. Du coup, j'aimerais bien revenir un petit peu sur la partie priorisation par la valeur. Et notamment, du coup, comment, en fait, tu arrives... Parce que une fois qu'on a compris le principe de se dire ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fonctionnalités que je vais livrer, mais vraiment la valeur que ces fonctionnalités apportent à mes utilisateurs ou à mes clients, qui parfois sont différents, parfois sont les mêmes. Le sujet derrière, il est de se dire, OK, j'ai compris que ce que je veux, c'est de la valeur et non pas X fonctionnalités. Maintenant, une fois que je sais ce que je veux, comment je mesure la valeur que j'ai réussi à apporter à mon client? Et comment derrière, j'arrive du coup à savoir la performance ou pas d'une équipe sur un axe vers lequel cette équipe a été fléchée, c'est-à-dire on dit voilà, toi tu te concentres sur la valeur apportée au client par rapport à ça, comment est-ce que je fais pour mesurer cette performance-là de l'équipe et du coup savoir si effectivement la valeur attendue a été apportée et pour pouvoir derrière évidemment piloter en fait l'évolution de l'équipe, sa progression, etc.
Ouais, alors pour moi, il y a deux choses. Il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'il faut d'abord être capable de poser des hypothèses. Et donc ça, nous, en tant que coach, c'était notre rôle. C'est-à-dire que quand, au niveau, par exemple, des initiatives qui sont lancées, donc, un exemple concret, hein, une initiative, c'est par exemple un nouveau service. Donc c'est ça, hein, vraiment pour donner la différence entre une feature qui serait, tiens, je refonds le parcours de souscription de telle page. Un niveau initiative, c'est, ok, je fais un nouveau service, par exemple. Donc le job, ça va être d'aider l'équipe à poser donc des hypothèses, c'est-à-dire de se dire, bah, nous pensons que en proposant ce nouveau service, on va pouvoir, je sais pas moi, accroître le CA de tant de pourcents, et puis on va répondre à tel problème utilisateur. Mais ça, finalement, ce n'est qu'une hypothèse, quoi. Donc déjà, on va aider l'équipe à formaliser l'intention sous forme d'hypothèse, comme ça. Donc ça, c'est clairement des outils, on n'a rien inventé, c'est les outils d'une start-up, hein. Tu sais, je pense que en faisant tel truc, ça va permettre de faire ça, et c'est un succès si. Et en fait, donc quand je te dis commencer par le commencement, c'est ça, c'est d'être capable de formaliser ça en disant, bah, je pense que c'est un succès si j'ai atteint telle ou telle chose. Donc déjà, on commence par formaliser des hypothèses. Et après, en fait, on va bah, faire des tests utilisateurs. Et donc là, on va voir si effectivement les résultats correspondent aux hypothèses qu'on s'était fixées. Et de là, bah, soit on va pivoter, soit on va arrêter, soit on va poursuivre. Tout ça, c'est une première chose. Et la deuxième, au-delà des KPI, donc là, qui sont vraiment, pour le coup, le mode projet, hein, de dire, bah, finalement, mon sujet là, sur lequel je travaille, j'espère faire un CA de X K euros. Comme je te disais tout à l'heure, un KPI, tu ne peux que le constater a posteriori. Une fois que tu as lancé ton truc, tu dis, ah bah ok, j'ai atteint le X ou pas. Là, en fait, nous, en tant que coach, le job, c'est d'aider les équipes à identifier ce qu'on appelait des indicateurs précurseurs. En anglais, tu sais, on parle leading indicateur, en fait. Et donc, ces indicateurs-là, justement, c'est sensibiliser sur le fait, sur le sujet de comment je m'assure que j'avance dans la bonne direction. Plutôt qu'attendre finalement que le truc soit lancé et le constater, bah, c'est par exemple se dire, ah bah tiens, si finalement les personnes, j'augmentais mon taux de conversion de tant de pourcents, ou si finalement les personnes restent plus longtemps sur ma page, etc., ok, c'est déjà un bon indicateur. Donc en fait, c'est ça quoi, c'est de les aider à matérialiser ça avec ces indicateurs précurseurs.
Très, très clair du coup là-dessus. Et pour revenir du coup sur un point que tu disais un petit peu en amont sur la partie, alors pour faire le lien avec les indicateurs, c'est aussi du coup pour embarquer les équipes et pouvoir les aligner. Enfin, quand la question que je t'ai posée, c'est aussi dans un souci d'alignement, c'est-à-dire que si on a un objectif commun qui est assez clair, bah, ça permet de beaucoup plus facilement aligner les équipes vers ce qu'on va chercher, d'où l'intérêt voilà, de mettre des indicateurs, comme tu disais là aussi, qu'on souhaite atteindre, donc les leading indicateurs, et voir si ça commence à bouger dans le bon sens ou pas. Et toujours dans cette logique du coup d'alignement, on parlait un petit peu en off avant, un épisode que j'ai fait avec Julie Chalumeau de chez Checkout sur le monde des scale-up, et elle parlait notamment en fait de la structuration des différentes équipes, et qu'à ce moment-là, quand ils ont commencé à vraiment grossir de manière importante en termes d'effectifs, ils ont fait venir aussi des coachs qui sont venus évangéliser du coup les pratiques, et qui ont notamment, elle expliquait un point que je trouvais assez intéressant, c'est qu'elle disait qu'il y en avait qui venaient parler. Et répéter beaucoup de fois un peu sur les cérémonies qu'on peut avoir classiques dans des frameworks type safe et qu'il les faisait de manière assez répétitive. Et au début, elle se disait, bon, ça semblait un peu être beaucoup pour pas grand-chose. Et en fait, elle a réalisé un an plus tard que derrière, c'était ces équipes-là qui avaient le plus évangélisé, qui étaient le plus connues au sein de l'organisation et qui arrivaient du coup à gagner le plus de légitimité, enfin, faire avancer les choses plus vite. Parce que du coup, de par ce travail d'évangélisation, elles avaient. Bah, elles s'étaient faites connaître, elles avaient expliqué ce qu'elles faisaient, et même si parfois elles répétaient les mêmes choses, bah, ça a permis voilà, une acculturation globale de ce qu'ils faisaient à toute l'entreprise. Là-dessus, du coup, je suis curieux d'avoir ton retour d'expérience, ton avis là-dessus, et notamment avec la partie aussi de ce que tu disais en intro, tu t'es intéressé au sujet de la facilitation et comment ça peut t'aider sur ce job-là.
Bah justement, donc moi j'avais écouté cet épisode, effectivement je voyais déjà beaucoup de similitudes avec donc les grands groupes, en tout cas type Orange, qui ont réellement mis en place une transfo agile à l'échelle et les scale-up, notamment, tu vois, typiquement, quand tu as parlé de ces intentions, ces briefs d'initiative, bon, bah voilà, c'est ce que tu vas retrouver dans les instances là, que j'évoquais, LPM. Et là, le sujet de répéter, ou, comme tu disais, voilà, mais ok, est-ce que ça fonctionne vraiment? Bah oui, en fait, effectivement, c'est un peu le job de coach. Hein. C'est pas répéter en imposant la culture produit, hein, attention, c'est sûrement pas en arrivant et en disant en fait il faut travailler comme ça, mais ça va être vraiment par tout simplement l'expérience, comme je le disais tout à l'heure, soit faire venir des gens qui vont parler de ce qu'ils ont mis en place, et puis répéter dans le sens en fait à chaque fois travailler par exemple avec ces mêmes équipes ou des collectifs qui font partie de la même chaîne de valeur avec ces méthodos, hein, donc design thinking, lean startup, atelier collaboratif pour, par exemple, là, travailler pour identifier un nouveau service ou accompagner des équipes opérationnelles, par exemple, via un design sprint. Le fait d'en faire un, puis deux, puis trois, bah, finalement, comme les gens, après, se rendent compte que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on va plus vite, pour te donner un chiffre très concret, le lead time, hein, qui est donc un indicateur en gros qui va mesurer entre le début de ta demande et finalement quand t'as livré le produit, grâce à cette transfo chez Orange, tu vois, il est passé par exemple de plus de 8 mois à 4 mois. Donc il y a quand même des éléments tangibles qui permettent de montrer que ça fonctionne. Et en fait, c'est ça, quand tu fais une fois, deux fois, trois fois, et que tu t'aperçois quand même que bah, ça fonctionne, on délivre de la valeur plus vite, ça va inciter d'autres équipes à le faire. Et puis aussi, il y a comme un peu un réflexe qui est pris. Et donc, notamment nous, au sein des équipes, soit en tant que coach, on sentait par exemple qu'il y avait potentiellement un sujet qui, parce qu'il est complexe, complexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est compliqué, c'est-à-dire que quand tu as plein d'interlocuteurs, quand tu as plein d'outils IT, tu dois aligner plein de gens autour d'objectifs, tu te dis là, ok, il faut peut-être quelqu'un d'externe, donc un facilitateur qui va accompagner l'équipe. Bah, ça, en fait, nous, on le faisait, on allait voir des gens pour les aider, mais après, il y avait aussi ce réflexe de venir tout simplement voir le coach, parce que justement, il y avait ce réflexe qui était pris, puisque ça avait fonctionné soit pour eux sur d'autres sujets, soit pour d'autres équipes. Voilà. Et sur le sujet du coup facilitation, là, bah, clairement, oui, au-delà de... Donc moi, par exemple, de ma casquette de coach qui était d'insuffler cette culture produit, comme je disais tout à l'heure, en aidant les équipes, en les challengeant sur le pourquoi, en apportant des outils, en gros, de toutes ces méthodos, Lean Startup, etc. Il y avait aussi toute une partie qui est tout simplement comment, dans une société où on a des milliers de personnes, avec toute cette complexité, on fait travailler les gens ensemble pour qu'ils s'alignent le plus tôt possible. Et ça, bah, c'est vraiment le rôle d'un facilitateur. Et donc ça, je l'ai fait à tous les niveaux, que ça soit des niveaux CODIR ou équipe opérationnelle. Et là, voilà, je ne sais pas si tu veux que je te dise un truc en particulier sur ça, parce que c'est un vaste sujet.
Oui, on va pouvoir le creuser, mais du coup, ça me fait penser, en parlant de ce sujet facilitation, à une question. Alors après, je ne sais pas si tu as un avis tranché là-dessus, mais ça m'y a fait penser, donc je te la pose, au sujet du télétravail. Et du coup, dans le rôle spécifique de facilitateur, d'insuffler comme ça ce type de culture. Est-ce que toi, tu as un avis justement sur cette question-là de bah, est-ce que tu peux le faire à distance? Est-ce qu'il faut être en présentiel? Comment l'équilibre entre les deux? Parce que je pose cette question, donc là, on enregistre en début de 2024. On voit notamment sur cette année 2024 que les grands groupes reviennent pas mal en arrière sur la politique de télétravail qui avait été mise en place juste post-Covid. C'est-à-dire que beaucoup maintenant demandent un temps de présence minimum par semaine. Même sur des missions d'externe, ils demandent voilà, que les gens soient sur site X jours par semaine. Donc, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus.
Ouais. Alors justement, j'ai eu les deux cas, c'est-à-dire que j'ai fait aussi bien de l'animation d'ateliers pendant le Covid, donc en full télétravail, full distance, en plus sur donc c'était une mission de coach agile, donc il y a quand même beaucoup d'humains. Donc déjà l'onboarding à distance, c'est quand même compliqué. Donc là, honnêtement, je trouve que quand tu arrives sur du 100% télétravail, donc tu n'as même pas eu d'onboarding physique, je trouve que c'est très compliqué de faciliter parce que le facilitateur, il faut qu'il crée un climat de confiance. Donc en plus, quand tu es à distance, que des gens ne mettent pas la caméra, créer ces conditions, c'est honnêtement vraiment difficile. Après, sur d'autres ateliers que j'ai pu faire en tant que facilitatrice jusqu'à présent et aussi en tant que formatrice, parce que du coup, j'ai aussi des formations à distance, tu vois, sur la facilitation ou le design thinking. Honnêtement, bien évidemment, le présentiel, pour moi, c'est toujours mieux parce que de toute façon, tu vas capter de l'informel qui sera plus difficile à distance. Néanmoins, on a de la chance d'avoir des outils super, si on peut citer des noms. Enfin, par exemple, tu vois, Miro. Enfin, moi, c'est un outil que j'utilise
Celui que j'avais en tête, donc.
voilà, au quotidien. Et en fait, on a beaucoup travaillé quand j'ai animé des collectifs, qu'il y ait 10 personnes ou 30 personnes, avec des outils type Miro à distance, ça se faisait très bien aussi, quoi. En fait, il faut juste un bon dosage, c'est-à-dire que je pense que le top, quand tu fais par exemple de la créativité, bien évidemment, je trouve que le présentiel reste ce qu'il y a clairement de mieux. Après, à l'inverse, quand tu es par exemple sur un atelier où tu vas vraiment faire de la convergence et tu vas être sur du plan d'action, bah finalement, ça peut être même peut-être plus efficace, tu vois, si tu es sur un atelier de 2 heures. À distance, tu sais que tu vas pas partir, tu peux pas partir sur d'autres sujets, tu es obligé d'être encore plus carré sur ton planning et ton heure du jour, et ça peut se faire. Et bien évidemment, moi j'ai aussi eu de la chance d'accompagner des équipes sur la durée. Donc à force, tu vois, tu connais les personnes, donc tu peux faire X ateliers en présentiel et Y ateliers à distance. Mais j'avoue que dans le cas que je citais, tu vois, en plein Covid, de n'avoir que des gens à distance, c'est une galère. En revanche, le truc que je recommande pas, c'est l'hybride. Et d'ailleurs, il m'arrive de dire non, en fait. Je suis passée par ça, l'hybride, d'avoir X personnes à distance et d'autres en présentiel. Alors déjà, il y a des points logistiques qui sont que les gens qui sont en présentiel, bah forcément, ils vont parler, enfin, il va y avoir des cercles. Donc c'est très très difficile pour ceux qui sont à distance de rester engagés. Non, c'est un enfer. Et moi je disais, bah voilà, soit on a un full présentiel, et s'il y a vraiment des gens importants pour l'atelier, et que malheureusement, pour X raisons, tu vois, tu as parfois des gens qui vivent et travaillent en région, bah en fait on fait à distance pour tout le monde, quoi.
Hyper, hyper intéressant. Globalement, tout ce que tu partages là, moi, je le partage aussi sur ces points que tu disais. C'est vrai que l'onboarding est hyper important, je pense, de le faire en présentiel, justement, pour connaître les gens. Et après, ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais sur les sujets ateliers de créativité versus d'autres sujets, peut-être d'alignement, ça met, je trouve, une couche supplémentaire sur la. On va dire ce qu'on pourrait penser naturellement du on pourrait dire bah, le télétravail quand c'est du travail de fond en mode focus seul c'est très bien mais dès que c'est en groupe c'est pas top. Là je trouve que c'est intéressant parce que ce que tu dis c'est pas non dès que c'est en groupe c'est pas top, c'est si c'est en groupe pour de la créativité effectivement avoir les cerveaux dans la même pièce ça permet de créer une émulation collective,
Clairement.
mais si c'est en groupe pour de l'alignement bah pourquoi pas en remote, et parfois c'est même mieux parce que comme tu le disais ça force à bien cadrer les choses et s'assurer qu'on tient dans l'agenda. Donc ça je trouve
Ouais.
ce retour assez intéressant.
Et petits tips aussi de facilitateurs qui fonctionnent bien quand tu es à distance, c'est aussi de demander, alors là pour le coup, faut relancer plein de fois, mais de demander du coup aux interlocuteurs, comme tu sais que ton timing, tu vois, il est assez serré et que voilà, à distance, tu es obligé, toi en tant que facilitateur, d'être un peu partout, de demander aux gens en amont. Par exemple, de poser des post-it. Tu vois, typiquement, tu veux faire un atelier où voilà, bah, te donner un exemple concret, hein, un atelier speedboat. Donc, c'est un atelier où tu vas demander aux gens voilà, quels sont les freins qui t'empêchent d'avancer, quelles sont les opportunités. Moi, j'ai fait faire ces post-it-là en amont, en donnant une deadline, ce qui me permettait, moi, en tant que facilitatrice, du coup, de faire ce regroupement de post-it déjà avant l'atelier. Donc, c'est un gain de temps énorme. Et du coup, au moment de l'atelier à distance, tu vois, j'ai déjà sur Miro tous mes post-it. Donc, déjà, je prends un peu le pouls aussi de l'équipe, quelles sont les douleurs et les points positifs qu'ils ont mis. Et c'est un gain de temps, parce que j'ai déjà, du coup, ma matière structurée. Donc, au contraire, parfois, c'est un petit plus. Si les gens jouent le jeu, yes. Ça, c'est plus dur.
Très, très clair. Du coup, toujours sur ce sujet facilitation, je suis intéressé d'avoir des retours d'expérience, de choses que tu as apprises vraiment, des choses qui t'ont marqué. Tu te dis, voilà, ça va me servir aussi plus tard. Tu vois, des situations peut-être difficiles, mais sur lesquelles tu as beaucoup appris. Mmh. Parce que là, on voit les côtés positifs, mais effectivement, la facilitation, c'est pas quelque chose de simple. Il y a beaucoup, beaucoup d'humains dedans.
Ouais.
Donc, de l'apprentissage qui vient avec l'expérience. Donc, je suis curieux de savoir, toi, aujourd'hui, quels sont les moments qui t'ont marqué et l'expérience que t'en retires aujourd'hui sur ces aspects-là, facilitatrice.
Ouais. Il y en a pas mal. Je dirais que quand tu facilites des ateliers, oui, c'est un job. Hein. Moi, je le dis je le dis aux gens, parce que il y en a qui pensent que tu es animateur, un peu comme un master of ceremony, un MC. Non, en fait, c'est un job, parce que la facilitation, c'est à la fois capter très vite les enjeux, les objectifs qu'on te donne, avoir une bonne capacité aussi d'intelligence émotionnelle, enfin c'est tout ça, donc c'est un vrai job. Et pour moi, je dirais que c'est vraiment le fait d'avoir animé beaucoup, beaucoup d'ateliers qui m'ont permis un peu de tirer des enseignements. Un des enseignements que tu as évoqué, c'est forcément l'humain. Donc, faut se dire que une des qualités du facilitateur, qu'il doit avoir, c'est l'adaptation. Donc, moi, je voyais, par exemple, avec des équipes, j'avais, par exemple, les challenger sur un sujet et je voyais que ça prenait pas. En me disant, je sais pas, j'ai l'impression que c'est moi qui ai l'air de, tu vois, je leur parle une autre langue. Et j'ai fait après d'une autre manière avec eux, c'est passé. Et du coup, pour d'autres équipes, je me suis dit, ok, je vais peut-être prendre cette approche-là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin, en fait, d'être tout de suite sur du concret pour un peu prendre de la hauteur. À l'inverse, tu vois, t'en as d'autres qui tout de suite vont être sur la prise de hauteur. Et dès qu'il va falloir être dans des choses plus concrètes, elles auront plus de mal. Donc, en fait, il faut juste s'adapter à ses interlocuteurs. Après, sur d'autres choses, typiquement les exercices entre guillemets que tu mets en place lors d'ateliers collaboratifs. Moi, un des tips que je donne, en tout cas quand je dispense des formations, c'est de dire aux gens partez sur des exercices simples et faites vous-même le job, tu vois, un peu comme un cobaye, c'est-à-dire tu réfléchis à un déroulé et toi-même t'essayes de trouver des réponses. Si tu vois que tu galères, c'est que déjà il y a un souci, il faut que tu changes de déroulé. Donc ça, c'est aussi un de mes apprentissages, c'est de me dire, mais moi-même je vais essayer, tu vois, d'être dans la peau du participant. Et puis après, un des autres sujets, mais ça franchement, c'est l'expérience, c'est la gestion, tu vois, des conflits, quoi. À force, tu commences un peu à identifier le type de profil et tu sais qu'entre le bavard ou le réfractaire, voilà, il y a des petites, petites techniques via des questions, via le regard ou via des missions que tu vas donner aux gens, de synthétiser, de prendre la parole, etc., en fonction, tu vois, des profils des participants.
Hyper, hyper intéressant. Et là-dessus, tu aurais une ressource clés qui te viennent en tête, par exemple, sur la gestion des conflits
Alors, sur la gestion des conflits, oui, alors, enfin, tu peux trouver des ressources, par exemple, dans des bouquins. Moi, j'ai, par exemple, alors, je suis pas fan de la littérature produit, hein, enfin, je préfère lire des romans, mais il y a des outils qui sont très concrets, des livres qui mettent en avant des outils très concrets. Donc, je pense, par exemple, à passer en mode workshop, qui est un livre où tu vas avoir des déroulés d'ateliers, justement vraiment des exemples d'outils concrets pour avoir par exemple le point que tu évoques, hein, de comment tu fais parler des gens sur des sujets touchy, etc. Et puis après, sur l'aspect humain, moi je trouve que, tu sais, tous les blogs sur l'agilité, c'est vraiment une mine d'or. Je pense que c'est y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas sur ces sites en se disant « Attends, c'est des trucs qui parlent d'agilité ». En fait, sur beaucoup de blogs d'agilité, tu as des outils et des tips très concrets sur de l'animation d'atelier et de l'humain. Donc je pense plutôt à ce type de ressources. Ouais.
Hyper, hyper intéressant. Ouais, ça ne me serait pas venu à l'idée, effectivement, les blogs sur l'agilité. J'avais en tête, moi, le bouquin de Marshall Rosenberg, « Communication non violente ».
Ouais, t'as dit, ouais.
Mais après qui est plus global, qui va au-delà de ouais. dérouler des workshops, quoi, qui est vraiment une façon de gérer des conflits au global, mais où il y a des ponts aussi, je trouve, qu'on peut faire quand on anime des ateliers. Sur le pour revenir un tout petit peu sur le monde du coup plus des scale-up versus versus ou avec celui des grands groupes, puisqu'en gros une scale-up c'est aussi une boîte qui est en train de se structurer pour devenir à terme, si elle continue, elle périclite un grand groupe. Qu'est-ce que t'aimerais, tu vois, est-ce qu'il y a un message en particulier que t'aimerais faire passer, ou en tout cas pour toi quelles choses peuvent être apprises d'un monde versus de l'autre, comment est-ce qu'on pourrait un peu reconnecter ces deux mondes qui peuvent parfois paraître déconnectés, et en réalité quand t'es dedans, quand t'es dans le concret, voilà, on parlait de l'épisode que j'ai fait avec Julie de chez Checkout, on se rend compte que bah, y a beaucoup de similitudes, les marchés qui sont adressés sont parfois différents, et c'est ça qui fait aussi la différence sur l'innovation qui a été créée par potentiellement Scale-up et le grand groupe qui est là depuis des décennies. Mais après, sur les fonctionnements internes des organisations, ça reste des organisations où il y a beaucoup de monde et qui font du business, donc on retrouve beaucoup de similitudes. Et est-ce que voilà, il y a, je sais pas, des points, un message en particulier, ou enfin des points...
Bah, oui, moi, comme je te le disais, vraiment mon constat, que ça soit en discutant avec mes pairs ou des pairs ou en écoutant des podcasts ou des voilà, écouter beaucoup de restes, j'ai vraiment vu beaucoup de similitudes, et donc moi j'invite juste tout le monde à aller voir ce qui se passe finalement ailleurs dans les autres structures. Tu vois, en design thinking, on parle pas mal de pensée latérale, tu vois, le fameux think out of the box. Concrètement, ça veut dire aussi s'inspirer de ce qui est fait ailleurs, pas que dans ton domaine. Et ça vaut, je trouve, pour l'écosystème startup ou les grands groupes. Je trouve qu'il y a un peu cette tendance parfois à regarder un peu les best in class, par exemple, de l'écosystème startup, et les grands groupes de regarder un peu voilà, tous ces gros frameworks des voisins qui l'ont mis en place. En fait, ce que je trouve dommage, c'est justement de ne pas regarder ce qui se fait dans les structures qui n'ont rien à voir, parce qu'en fait, tu peux peut-être justement te dire que, bah, par exemple, si tu scales, forcément, tu vas avoir des problématiques qu'un grand groupe a eues. Hein, et donc, il y a peut-être des choses à prendre, peut-être des inspi, ou à l'inverse, peut-être des choses qui sont peut-être des choses sur lesquelles... bah, il faut surtout pas partir, mais tu ne le sauras pas si t'es pas allé, tu vois, observer et regarder ce qui s'est fait ailleurs. Donc moi j'incite vraiment les gens à écouter voilà, des rex de personnes qui ont mis en place ou qui ont travaillé justement dans des organisations très différentes. Et vraiment, je citais l'exemple tout à l'heure, moi je disais, mais c'est marrant, il y a des choses, je pense, le wording est différent, mais c'est exactement les mêmes manières de travailler une orga produit. Mais ça, on le sait que si on veut bien écouter ce qui se fait ailleurs, quoi.
Très, très clair. Du coup, avant d'aller vers mes deux questions de fin d'échange, est-ce qu'il y a un point en particulier qu'on n'a pas assez abordé, ou un sujet que tu voudrais encore spécifier, ou...
Je trouve qu'on a fait un tour. Ouais, j'ai l'impression qu'on a parlé pas mal de choses, hein, de facilitation, de culture produit dans les grands groupes, d'appareil de pilotage de la valeur. Sauf si tu as une question plus précise sur un truc, moi je pense j'ai adressé en tout cas je pense les choses qui me tenaient à cœur.
Top. Non, bah, c'est très bien. Donc pour aller vers mes deux questions de fin d'échange, donc la première, c'est est-ce que tu as une conviction forte avec laquelle tu te retrouves en général en désaccord avec tes pairs?
Oui, bah c'est typiquement ce qu'on vient de dire à l'instant. Alors, c'est pas tous les pairs, mais voilà, moi, je trouve qu'il y a une vision un peu dogmatique et caricatural, il me semble, du product management parfois. C'est-à-dire que la vision dogmatique, ce que j'entends par là, c'est qu'on a l'impression que certains ont tendance à croire qu'il y a une bonne manière de faire du produit, que si on n'utilise pas tel ou tel framework ou tel outil que un des grands experts produits a dit qu'il fallait faire, bah, du coup c'est qu'on fait mal du produit. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que finalement la meilleure pour moi approche produit, c'est celle qui fonctionne, voilà, tout simplement. Alors ok, peut-être qu'il y a des choses qui sont pas super, je sais pas, dans le framework safe, mais peut-être des choses intéressantes que tu peux prendre. Et c'est pas grave si tu prends pas tout. Pareil pour la méthode agile. Hein. Enfin voilà, tout le monde ne peut pas. Il y a des trucs que tu peux pas répliquer à 100%. Et c'est pas l'objectif. Pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est le mindset. Donc voilà, je trouve que y a un peu cette vision dogmatique, c'est un peu dommage. Et du coup, je reviens sur le fait qu'il faut tout simplement s'ouvrir aux autres et plus le prendre en inspiration et essayer de voir ce qu'on peut prendre de bon, adapter ou pas du tout, quoi, éviter. Voilà.
Top. Bah, apprendre de l'expérience des autres aussi pour construire au fur et à mesure et pas réinventer la roue ou résoudre des problèmes plus rapidement parce qu'en fait ils ont déjà été résolus par d'autres. Donc...
C'est ça, moi je sais que je passe beaucoup de temps à écouter des podcasts, à me nourrir de Rex, quoi, vraiment d'être beaucoup dans l'observation, dans l'écoute des autres, pour essayer moi aussi de m'améliorer dans ma pratique, tu vois.
Top. Mais du coup, ça vient vers ma dernière question, qui est quelles sont les choses qui t'inspirent, qui te nourrissent intellectuellement. C'est pas nécessairement du coup des choses pro, ça peut être d'autres choses, mais voilà, l'idée c'est de voir comment tu penses aussi.
Bah dans les choses pro, donc voilà, quand même tous les podcasts qu'il peut avoir en product management que beaucoup de gens connaissent, hein, je ne sais pas s'il faut les citer, mais voilà, podcast sur le produit, mais également plus business, tu vois, type génération do it yourself, ce genre de podcast. Moi, j'aime aussi écouter des Rex, comme je te disais, vraiment des Rex concrets d'entreprises, ou de retour de personnes qui ont travaillé dans des organisations. Je suis moins sur de la littérature, comme je te disais, de méthodes. En revanche, je te citais tout à l'heure passer en mode workshop, et d'ailleurs, je les cite aussi quand je dispense des formations. Il y a GameStorming, ce genre de livres, qui sont vraiment des livres avec des outils très concrets pour animer des ateliers collaboratifs. Donc ça, c'est des sources. Hein. Les livres, tu peux trouver vraiment des trucs intéressants en animation d'atelier. Et puis, moi, j'aime bien aussi tout simplement me nourrir avec des livres qui ne sont pas forcément en lien direct avec le product management. Mais par exemple, tu vois, là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Les maîtres de la manipulation ». C'est hyper intéressant. Ça te montre en fait comment au fil des temps, par exemple, au fil du temps, tous les grands publicitaires ou les Disney et autres ont façonné le monde avec des techniques bien connues qu'on utilise encore. Et ça, voilà, c'est aussi hyper intéressant d'élargir sa vision avec ça, quoi.
Top. Bah, merci pour tous ces partages d'expérience, Dounia.
De rien.
À bientôt.
À bientôt. Merci, Terry.
Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt sur Just Click, le podcast français du product management.